Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
<t'en> 16h55 dans les toilettes de France Inter.
Non, là, là, c'est pas vrai, ah là là là, mince!
Mais il s'est fait Charline, il est moins 5, elle devrait être en studio!
Mais oui, Charline!
Je suis là, les amis, au secours!
Mais t'es où, là?
Je suis coincée, je suis aux toilettes avec François Langlais!
Quoi?
Non, mais j'étais en train de finir le livre de François Langlais aux toilettes, je
veux dire! Ah, mais t'es bien, quoi!
Ouais. Là, on est à 5 minutes de l'antenne, je suis coincée derrière la porte!
Ah, mais détends-toi, Charline, on va trouver une solution!
T'as qu'à faire l'émission par téléphone!
Voilà. Ouais, par téléphone, mais non, Alex!
Bah non, bah alors sinon, on annule tout, Charline!
Annule tout, ça rappelle des bons souvenirs, ça!
Ouais, c'est vrai!
Moi, je pense que c'est un signe, cette porte fermée, quoi.
Quel signe?
Eh ben, que c'est la saison de trop, j'ai déjà dit.
Comment?
Non, il a dit, c'est bon sur le pot.
Ah, très drôle, mais il pourrait y avoir un petit peu de compassion, quand même. Qu'est-ce que je vais dire à François Langlais, moi?
Bonjour, François, je suis en direct des toilettes de France Inter.
Oh là, putain, on se croirait sur BFM TV, là.
Ah, bah, on se croirait aux chiottes, surtout.
Ouais, c'est ce qu'il vient de dire.
Bon, sinon, glisse tes feuilles sous la porte, on va la faire, la présentation.
Bonjour, la France Inter, et bienvenue dans la start-up des toilettes publiques.
Bon, elle est, et en plus, il est 17h, là, on y va, nous, Charline.
Allez, non!
À toute Charline. Charline,
tu pourras nous écouter en podcast.
Bonjour, la France Inter. Je suis sortie à temps. Et bienvenue dans la start-up dont voici la devise du jour. Le cash flow ne fait pas le bonheur, mais il upgrade le process. Voici les trois dossiers partagés sur Google Drive. Pékin refuse toujours le dialogue avec les manifestants à Hong Kong. Cela fera bientôt 3 mois qu'ils revendiquent le maintien de leur autonomie. Sous les parapluies symboles de la révolte, les dirigeants communistes se font sans doute traiter de Shintok.
Les Shintok, pourquoi ne dis-tu pas les Chinois ou à la rigueur les troupes d'occupation, ça alors?
Ma parole, tu milites, t'es complètement passé de leur côté.
Les Français sont toujours parmi les plus nuls en langues étrangères. Un héritage de la méfiance envers le multilinguisme et la chasse au régionalisme. Une mauvaise maîtrise des langues étrangères n'est bien sûr pas sans conséquences.
Shut up. Kiss my ass.
D'accord. Faisons comme ça.
Un tour opérateur français s'est spécialisé dans les voyages réservés aux femmes. L'un des arguments de vente, c'est de protéger les voyageuses de la drague lourde.
Putain, les meufs, elles supportent un accouchement, elles supportent pas une vanne.
Voilà, un sujet qui laisse perplexe depuis ce matin. Alex Vizorek, bonjour.
Bonjour Charlie Benounaker, et maintenant tenez-vous bien. C'est une belle équipe que je vous propose aujourd'hui. À 17h20, celui qui est autant acteur de ses chroniques que chroniqueur de ses actes, c'est Hippolyte Girard. Oh, bonjour.
Bonjour.
Comment il va?
Il va très très bien.
Et de quoi il va parler?
Eh ben, je me pose la question contre le dérèglement climatique, entre la prière et la bagarre, n'y aurait-il pas une troisième voie possible?
Homme de solution.
C'est un peu
Girardo
ça
cette
va
saison.
Être brillant.
Vous l'entendez, 17h30, celui qui s'est rendu ce matin dans son biotope naturel,
oui.
Les universités d'été du MEDEF.
Eh bien, tout à fait.
Gabriel Meurice.
Bonjour, bonjour à tous. J'ai voulu faire plaisir à notre invité. Je suis allé dans son jardin et j'ai rencontré des gens un petit peu perdus.
Alors, est-ce que Karl Marx, où es-tu?
Ah, Karl Marx n'était pas là.
Hein. Ah,
il a eu un empêchement.
Et enfin, 17h40, celle qui était à la première de cette émission et qui, 6 ans après, est toujours là. C'est vous dire si personne n'en veut. Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
On va parler d'une escapade en forme de déchirure.
Et voici celui qui va faire monter le cours de l'actualité, bien sûr. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes.
François Langlais.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue François Langlais.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Bonjour, vous publiez Tout va basculer, 1919, 1929, 69, 2009, 2019, chez Albin Michel, l'économiste autour de cette table. C'est Alex Vizorek, il a fait les études d'ingénieur commercial à Solvay. Donc
École de commerce.
Ouais. Et Solvay, je suis ici. Réputé.
Ben oui, vous voyez l'échec pour ces gens, ils essayent d'oublier. J'ai été rayé des tablettes. Non, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à dire ça. On est dans presque l'histoire économique du siècle précédent. Et je me permets de lire un peu de François Langlais. Vous dites, peut-on prévoir l'avenir en plaquant sur les temps qui viennent la mécanique observée par le passé? Point d'interrogation. La réponse de ce livre est sans détour, oui. Il n'y a aucune raison que l'époque moderne échappe aux déterminants de la psychologie collective qui ont dominé nos prédécesseurs. Car vous dites, il y a très peu de chances que nous soyons plus bêtes qu'eux, il y a aussi très peu de chances que nous soyons plus intelligents. C'est un constat compliqué, ça. La seule chance d'être plus intelligent, c'est de lire votre bouquin et de comprendre ce qui s'est passé
non,
le siècle précédent.
Disons, c'est que les déterminants de la vie collective ne changent pas fondamentalement. On a toujours l'impression qu'on réinvente les choses et que parce que on a des petites choses dans la poche qui permettent de communiquer avec le monde entier, on est plus intelligent. C'est faux. C'est faux. Surtout en matière économique, parce que les deux émotions principales de l'économie, c'est la peur et le désir de gagner, la peur de perdre et le désir de gagner. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'état le plus brut sur les marchés. Ça, c'est comme ça depuis toujours. Et c'est vrai que quand on voit justement, disons qu'on essaie de comparer la situation actuelle à d'autres années en neuf, puisque c'est le pari de ce bouquin, hein, c'est que dans les années en neuf, il
pas
se passe
rassurant.
Quand même toujours des choses, parce que comme si finalement, au seuil d'une décennie nouvelle, on purgeait toutes les tensions accumulées et qu'on se préparait à un basculement.
Vous parlez des années en neuf, mais il y a 39 aussi que vous n'avez pas mis sur la couverture,
c'est
et
vrai.
Vous dites effectivement...
Mais c'est pas passé grand-chose.
Mais vous dites effectivement qu'on assiste en parallèle à la crise économique, à la montée des populismes, et donc ça rappelle cette période-là. Pourquoi on serait pas plus intelligent qu'à l'époque ? Dit-il
pourquoi le serait-on
angoissé.
C'est-à-dire que finalement, comme à l'époque, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que vous avez un cycle libéral qui se termine, qui a produit certainement des choses très positives, mais qui a aussi été poussé jusqu'à la caricature, jusqu'à la dénaturation, qui a fait monter les inégalités, qui a fait monter les risques financiers, qui a fait aussi, qui a donné le sentiment aux citoyens qu'ils avaient perdu la maîtrise de leur destin. Donc, un peu comme dans les années 30, ils se réfugient dans d'autres solutions nationalistes. On en voit la traduction quasi quotidienne dans l'actualité.
Mais oui, donc vous mettez souvent en parallèle la géopolitique et l'économie.
Oui.
Quelle est l'œuf, quelle est la poule? Est-ce que c'est l'économie qui fait que la géopolitique évolue comme ça ou c'est la géopolitique qui fait que l'économie avance?
C'est haut niveau les questions. Hein.
Ouais.
Ça c'est solaire. Hein. Attention, non, là, si vous comprenez pas, levez la main. Hein. Moi j'explique. Hein.
Attendez, parce qu'il y aura les brèves tout à l'heure, donc profitez-en.
Ce qui est marrant, c'est que oui, moi qui suis réputé économiste, ou plutôt journaliste économique, j'ai fait des études de lettres. Donc vous voyez que, exactement comme vous, mais j'ai fait le chemin inverse.
Ouais.
Je croise dans la côte. Et, non, je pense que c'est les géopolitique et économie, c'est les deux causes de la même conséquence, c'est-à-dire que la cause première, c'est justement le changement de logiciel collectif et le fait que ce cycle libéral qui est né avec la génération des baby-boomers dans les années 60, qui elle-même s'était déterminée contre ses parents parce qu'elle voulait plus de liberté, eh bien ce cycle il s'épuise et finalement la génération qui monte elle est beaucoup plus circonspecte vis-à-vis de la liberté et au moins de ses travers et c'est justement de ses caricatures et c'est ça qui fait que et géopolitique et économie et politique basculent.
Et vous, il y a un chapitre, le dernier, c'est 2029. Et vous dites que donc ce qu'on va vouloir c'est plus de règles et,
oui.
et dans un sens aussi politique, c'est-à-dire plus de gens qui imposent des règles, mais aussi un retour vers les services publics.
Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive, François Le
bolchevique.
Vous vous souvenez que dans une émission nous étions ensemble avec François Fillon, il m'avait traité de marxiste.
C'est vrai. Oui. C'était l'émission politique.
C'est la seule fois où j'ai été traité de marxiste.
Et je dois dire, vous étiez mon meilleur camarade dans cette émission politique. Vous m'avez beaucoup soutenu face à l'adversité que j'ai connue.
Avec grand plaisir.
Oui, enfin vous deux, vous avez fait donc élire Macron, chapeau les gars, avec vos conneries.
Hein. Surtout Charlie.
C'est vrai.
Donc 2029, pour vous, c'est ça le...
Oui,
c'est vers ça qu'on
va. Manifestement, il y a un désir de protéger... En fait, le cycle libéral a été dominé par la recherche de la liberté et celui qui s'ouvre, qui est porté justement par la nouvelle génération, me semble au contraire dominé par la recherche de la protection. C'est le besoin de protection qui domine. Et dans les périodes où on a besoin de protection, évidemment, on demande à l'État des règles. Et on demande à l'État des frontières. Frontières et règles, c'est quasiment le même mot, c'est la même idée. Hein. Et on a passé 30 ou 40 ans à démanteler les frontières et les règles, en économie et en politique, et il me semble qu'aujourd'hui, on a un point d'inflexion qui fait qu'au contraire, la demande populaire, et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que c'est une demande populaire dans tous les pays du monde en même temps. Comme si ce cycle idéologique, il était en fait véritablement mondial.
Tous les pays qui votent, en l'occurrence.
Oui, et même au-delà, regardez, en Chine, il y a une évolution du régime aussi qui est assez caractéristique. On revient aux fondamentaux, si je puis dire, maoïstes. On en parlera peut-être tout à l'heure à propos de Hong Kong. Mm-hmm. Bon, on vote en Russie, mais bon, c'est un pays dont la démocratie est quand même intermittente et capricieuse.
c'est bien dit.
On voit aussi que là, il y a une forme de populisme qui se développe dans ce pays-là également. Donc, de la même façon que le monde entier a libéralisé au tournant des années 80, eh bien le monde entier revient aujourd'hui, me semble-t-il, justement à l'expression des règles et des frontières poussées par la demande politique qui est davantage de protection.
François Langlais, vous êtes une des voix principales pour raconter l'économie à la télévision, à la radio, etc. Vous êtes connu pour vos métaphores, souvent. Hein. Alors, je peux pas vous paraphraser. L'inflation, c'est lorsque, dans l'Union européenne, Mario Draghi se trouve au pied d'une échelle, qu'il y a 6 échelons, qu'il y a un saut au-dessus et qu'une balle de tennis vient frapper le saut. Et là, voilà, ça c'est François.
C'est
là qu'on décèle le...
Un pédagogue.
C'est-à-dire, vous avez fait des études de lettres, vous avez enseigné.
Je ne suis pas un spécialiste, en fait.
Pardon ?
Oui, je ne suis pas un spécialiste. Et si vous voulez, je regarde les problèmes économiques avec les yeux de quelqu'un dont ça n'est pas la formation première. Et je pense que c'est évidemment un handicap au début, quand on s'affronte à ces questions-là. Mais après, c'est l'avantage. Parce que justement, vous pouvez, à partir d'une matière réputée complexe, arriver plus facilement à ce qui est simple, au sous-jacent. En fait, dans toute question, les choses les plus importantes sont souvent les plus simples. Et la complexité, elle est apparente, elle est d'ailleurs entretenue par les spécialistes parce qu'ils en vivent. Mais moi, mon travail, c'est justement d'aller au-delà. On n'y parvient pas toujours parce qu'il y a, d'abord, on est plus ou moins inspiré, puis il y a des questions justement plus ou moins appréhendables, quoi. Mm-hmm. Mais c'est ça le job.
Et c'est ce que vous faites aussi sur TF1, sur RTL le matin, mais il ne faut pas le dire. Et dans votre ouvrage, donc, Tout va basculer, paru chez Albin Michel, François Langlais avec nous. Écoutez, c'est pour vous.
Pas facile, gagner l'argent français, bosser, bosser. Pas facile, gagner l'argent français. marche et le vent. Bosser, bosser, pas facile, gagner l'argent français. Pas facile, gagner l'argent français. Bosser, bosser, pas facile, gagner l'argent français.
Surtout sur le service public.
Mamani Keita. Nous sommes en compagnie de François Langlais qui publie un livre qui s'intitule « Tout va basculer » chez Albin Michel, car toutes les années en neuf... Il se passe un truc. 1919, 1929...
69.
2019. Mmh. Et le dernier chapitre,
29.
2029, où on aura besoin de services publics.
Sans aucun doute.
Voilà.
Mais c'est on déjà très précieux qu'il soit là.
On verra, oui, c'est vrai. On en aura besoin.
Quand
mais
il invite des bons auteurs, par exemple.
Autour de la table, Alex, pour entourer François Langlais.
Que du service public.
Évidemment.
Guillaume Meurice, Hippolyte Girardot et Clara Dupont-Moneau.
Quand on est attaqué, matin, midi et soir, eh bien, évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi.
Le journal de presque 17h17.
Oh, bon, c'est normal. C'est le grand air qui vous fatigue.
Et on commence par les titres.
Sur Twitter, l'acteur Hugh Grant a dit à Boris Johnson d'aller se faire foutre.
Marlène Schiappa ne devrait pas tarder à faire un tweet pour demander de suspendre la carrière de Hugh Grant pour homophobie.
Justement, le match Nice-Marseille a été interrompu à cause de chants et de banderoles homophobes.
Ouais, en y réfléchissant, je me demande si on n'aurait pas pu réclamer de rejouer la demi-finale France-Belgique pour cause d'homophobie parce qu'Oumtiti nous a bien enculé avec son but. Les brèves, je sais bien que vous aimeriez me dire de me les mettre où je pense, mais vous ne pouvez pas, donc il y en aura. Commençons donc par la politique française.
Oui, et la rentrée 2019, ouais. Jean-Michel Blanquer a annoncé une hausse de 300 euros par an du salaire des professeurs. 300 euros de plus par an, ça fait, vous avez calculé, oui. 25 euros de plus par mois.
Je crois que... Ah, nous avons un professeur en ligne qui souhaite nous faire part de sa réaction.
C'est de l'ironie.
Réfléchis-y bien, oui, c'est de l'ironie. 300 euros, c'est une honte, une honte, une honte, monsieur Blanquer. Vous allez voir, les Français, ils vont descendre dans la rue, monsieur Blanquer.
Calmez-vous, Alex, calmez-vous. En plus, il n'y a pas de vanne dans ce que vous dites.
Non, je sais, mais j'ai pas trouvé de vanne. Mais je me suis dit que vu le nombre de profs qui nous écoutent, c'était une indignation qui coûtait pas bien cher et qui permettait de garantir la loyauté de l'auditeur.
Bravo, bravo, Alex.
C'est une technique.
Notez François Langlais comment on fait pour garder l'auditeur. Vous êtes encore plus cynique que Blanquer.
Cynisme total.
Oui, pardon.
Mais il est sur RTL, faut faire la même chose avec les chauffeurs de taxi.
International.
Oui, le président brésilien Bolsonaro a retiré finalement le commentaire offensant sur Brigitte Macron qu'il avait posté sur Facebook.
Oui, enfin, entre la France et le Brésil, la situation amoureuse reste toujours c'est compliqué sur Facebook.
En Angleterre, Boris Johnson a annoncé la suspension du Parlement britannique entre la deuxième semaine de septembre et le 14 octobre, ce qui ne leur laisserait probablement pas assez de temps pour tenter d'empêcher le Brexit.
Donc les députés britanniques vont faire leur rentrée mardi prochain et une semaine après, hop, ils seront en vacances. La seule britannique à avoir encore moins bossé dans une assemblée, c'est Pénélope Fillon.
Revenons en France avec un point climat, car le pays connaît un épisode de sécheresse sans précédent. Depuis 2018, la France connaît un déficit de pluie.
Et oui, on peut dire ce qu'on veut, mais avec Hollande, ça ne serait jamais arrivé.
C'est bien vrai. Sport à présent, le match Nice-Marseille a été interrompu à cause de chants et de banderoles homophobes.
Et sur l'équipe TV, hier soir, on a beaucoup débattu de ce sujet et on sent que, voilà, c'est pas encore très très clair pour eux, best of.
Je trouve que l'homophobie a bon dos,
en fait. À Marseille, pendant 25 ans, le Hobbit s'enculait, il a jamais été homophobe.
On peut me dire ce qu'on veut, c'est l'humour peut-être pas grinçant, peut-être ce qu'on veut,
un peu paillard,
mais c'est
un autre
pas
truc,
l'homophobie.
Mais Twitter fait beaucoup plus de mal à l'homophobie que le foot, par exemple.
Je suppose que t'as des amis de la communauté gay, moi c'est mon cas, je veux dire, entre eux, il se traite de sale pédé, sans problème.
Et au passage, je voulais m'excuser auprès du syndicat du rail, parce qu'une fois, j'ai traité un arbitre de tous de chef de gare.
Voilà.
C'est bon, ça avance.
On remercie notre réalisateur qui écoute l'équipe TV et qui nous ramène les pépites.
Et il s'appelle François Audouin. Merci François. Média encore. Frédéric Becbédé rejoint Laurent Ruquier comme chroniqueur dans On n'est pas couché.
On n'est pas couché qui pourrait être le titre de la vie de Frédéric Becbédé.
En revanche, exit donc Christine Angot.
Voilà, qui va pouvoir retourner à ses premières amours, la littérature et les antidépresseurs.
François Langlais attend les brèves.
C'est les brèves, François. Le cours des brèves monte. Examiné pour une
douleur au genou, il découvre que son pénis se transforme en os. Oui, mais je voulais pas parler de moi, mais enfin voilà. Avoir une troisième jambe.
La dernière, peut-être.
États-Unis, oui, c'est un peu triste. États-Unis, ouais. La femme la plus rapide du monde en voiture se tue en essayant de battre son propre record, ce qu'on appelle la sélection naturelle.
Ouais. François Larrier, c'est avec ce genre de séquence qu'on essaye de rattraper petit à petit les grosses têtes.
Voilà.
On va y parvenir. C'est, je crois qu'en 2029.
Ah, ouais,
dans votre bouquin, vous l'avez dit. François Langlais, depuis 3 mois à Hong Kong, la majorité des citoyens manifestent pour réclamer le maintien de leur autonomie politique, économique, juridique par rapport à Pékin. La Chine l'avait promis en récupérant dans son giron l'ancienne colonie britannique, mais le Parti communiste ne tient pas ses promesses. Ode aux Chinois.
Le père Mao, c'est mon copain. Tiens, je t'offre son petit bouquin. À la page 6, paragraphe 3. Il pose la même question que moi. Connaissez-vous la Chine et le tango chinois? Mandarin, mandarine.
Les grosses têtes, on cherche les grosses têtes.
Chez nous, tout le monde danse que ça.
Un chanteur belge très célèbre chez nous.
Des Français dans le studio.
Chanteur belge très célèbre, très célèbre chez nous qui s'appelle le Grand Jojo.
Grand Jojo, playlist direct.
Qui est dans la discothèque de Radio France. Il a été intégré. Non mais véritablement, bah ouais, oui. C'est vrai. Alors c'est notamment le dossier du Courrier International, bien sûr. Vous connaissez bien la Chine, François Langlais. Vous y avez vécu, vous avez enseigné, vous avez travaillé aussi comme correspondant.
Il y a bien longtemps. Oui.
Entre, j'en étais 86 et 89. C'est ça.
Oui, c'est ça. J'y suis arrivé en 86 exactement.
Vous avez enseigné la littérature française. J'ai vu. Vous avez été journaliste correspondant pour des médias français. Oui. Voilà. Quel aspect de ces événements vous frappe? Comment est-ce que vous le regardez, de quel œil, avec d'avoir vécu là?
Il y a deux choses qui me frappent. D'abord, l'incroyable détermination de la population générale. Il y a eu des millions de manifestants à Hong Kong. Après, quand même, plus de 20 ans de domination chinoise, effective, hein, puisque la rétrocession, elle date de 97. Donc, ce désir, pour le coup, d'échapper à la Chine n'est pas éteint, loin s'en faut. Et l'autre chose qui me frappe, qui est assez positive, c'est que il y a 30 ans, justement, face à des débordements comme ça, la Chine a sorti les chars. C'était Tiananmen. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils n'osent pas. Ils n'osent pas.
Pourquoi? Pour des raisons économiques aussi.
Probablement, mais je pense aussi pour des raisons d'image. C'est-à-dire que Xi Jinping, qui est le chef de l'État, se présente comme, au fond, pas le chef du monde, mais presque, en tout cas, le rival de Donald Trump sur la scène internationale, comme celui qui promeut un ordre international paisible avec les fameuses routes de la soie. Donc, sortir les chars quand on veut apporter un message, justement, de paix, de concorde universelle et de commerce, ça ne marche pas.
Mais si, permettez-moi d'être un peu plus cynique, mais il me semble que Hong Kong est la place vers laquelle convergent les grandes fortunes chinoises, notamment pour le régime fiscal qui est un peu plus clément qu'en Chine.
Il paraît que Xi Jinping a ses petits sous à Hong Kong, il ne va pas écraser
son banquier.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dû mettre leur argent ailleurs. Enfin, ça transite probablement par Hong Kong, mais c'est plus probablement dans des paradis fiscaux. En termes économiques, aujourd'hui, Hong Kong, c'est à peu près 5% du PIB chinois, donc c'est assez faible. Au moment où la rétrocession s'est faite, c'était 15%. C'est-à-dire que le poids relatif de Hong Kong ne cesse de diminuer. Mais au plan stratégique, ça reste évidemment un atout important dont la Chine a besoin. Et c'est pour ça qu'elle est probablement attentive à ne pas utiliser la force comme elle l'a fait sans ménagement dans ces années troublées.
Lorsque vous étiez correspondant en Chine, est-ce que vous avez été confronté à certaines contraintes? Ou justement, quand on est correspondant, on n'est plus... Non.
Bien sûr, mais je l'étais d'abord comme prof, si vous voulez. Je me souviens que...
C'est-à-dire
l'une des choses que je faisais avec mes élèves, je leur montrais des films français, et notamment des films des années 30. J'étais convoqué au bureau de l'université parce qu'on considérait que c'était des choses séditieuses. Je leur lisais des extraits de Proust, ou alors, de façon plus prosaïque, des unes de magazines sur, je sais pas quoi, la vie quotidienne des Français. Et on était surveillés tous les vendredis. On allait à une espèce de messe où il fallait commenter les textes sacrés de la pensée maoïste et marxiste-léniniste.
Mais François Langlais, alors, ça c'est assez fou, ça.
J'étais formé parmi les meilleurs.
Mais c'est pour dire que on vivait, enfin on s'imagine pas, mais la Chine de l'époque était une Chine complètement différente, qui a d'ailleurs tout à fait disparu. C'était un pays pauvre, et c'était un pays dans lequel d'ailleurs c'était pas facile de se nourrir, c'était pas facile de soigner, c'était pas facile de se déplacer, c'était pas facile de parler avec les gens. Et moi ça m'arrivait, Shanghai, j'habitais à Shanghai, c'est une ville qui était à l'époque de 10 ou 12 millions d'habitants. Je pouvais traverser la ville sur une journée sans rencontrer un occidental. Hein, on était vraiment très très peu nombreux. Et c'était ce qu'on appelait à l'époque un pays en voie de développement, complètement différent de celui d'aujourd'hui.
François Langlais, tiens, à propos de ce sujet, Alex.
Eh ben oui, ce soir dans le nouveau rendez-vous de Laurent Goumard, c'est une spéciale Hong Kong-Pékin. Et Sunny Chan, que j'ai croisé dans les couloirs et qui est hongkongaise, est très très remontée parce que elle trouve que catastrophée par ce qui se passe là-bas et qu'on en parle peu. Et que effectivement, c'est plus violent que ce qu'on ne le dit.
Voilà. Voilà, à écouter ce soir donc.
Sans doute, c'est moi ça me frappe aussi qu'on en parle peu et que le gouvernement français soit mutique sur la question. Alors évidemment, certains diplomates vous diraient, c'est pas en en parlant qu'on arrange les choses. Je ne sais pas. Reste que les Hongkongais doivent se sentir assez seuls. Il y a guère que les Américains, hein, et le Congrès américain qui a fait des déclarations justement assez dures en disant, si la Chine intervenait brutalement, eh bien, on supprimerait le statut commercial spécial de Hong Kong, donc on punirait la Chine en quelque sorte.
Mais c'est compliqué pour le gouvernement français de soutenir des manifestations quand même, surtout après ce qui vient de se passer. Enfin, moi perso, ça me ferait marrer, mais je les sens pas. Je sais pas pourquoi. Je les sens pas.
Vous n'avez pas tout à fait tort, si ce n'est que bon,
je suis pas spécialiste, hein,
mais les Hongkongais ne votent pas, quoi. Hein, donc il y a quand même un degré de contrainte qui, de ce point de vue-là, au plan politique,
est qui réclame plus fort.
Ah non, mais chez eux, pas, chez nous. C'est comparable. J'attends juste la déclaration de Christophe Castaner.
On a bien enregistré François Langlais qui dit à Guillaume Meurice, je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas complètement tort.
Ça va faire un jingle.
17h32 sur France Inter. Passons la parole à notre ami Hippolyte Girardot.
Ah, c'est à moi. Oui, alors bon, il a fait vraiment très très chaud cet été, c'est monté à la tête de tout le monde, moi le premier. On s'est rendu compte qu'on vivait effectivement dans un climat tempéré quand il ne l'est plus, ça c'est classique. Et c'est d'ailleurs le mois de juillet le plus chaud du siècle, de la canicule en veux-tu en voilà, et pour terminer ça des incendies qui ravagent le poumon de la planète, enfin bref, ça fait flipper d'ailleurs surtout les jeunes.
J'ai lu un article pas très cool, j'aimerais bien pouvoir l'oublier. Ça m'a foutu tellement les boules, je veux pas lire jusqu'au bout.
Ok, donc le jeune fait un déni, un déni de réalité.
Moi, le jeune s'appelle Angèle.
La jeune Angèle fait un déni de réalité. Moi, je comprends ça très, 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 très bien. Mais ensuite, je comprends pas tout à fait ce qu'elle dit.
On est dans la merde jusqu'au cou. Okay. C'est fou comme on a su oublier.
Oui, mais
le déni c'est tellement plus cool que ce genre de vérité.
Ok, bon, il y a un truc, elle critique le déni, en même temps elle en fait un. Ouais, bon, je sais pas, mais peut-être que je ne sais pas parler. Cela dit, personnellement, je comprends sa confusion, parce que c'est pas facile de se révolter, non ? C'est quand même, se révolter contre qui, par exemple ? Le dérèglement climatique n'a pas encore de boîte postale, à ce que je sache, vous voyez, c'est compliqué. D'ailleurs, même un président de la République, il sait pas bien comment faire. Vous regardez ce qui s'est passé à Biarritz. Hein. Notre prince avait trouvé le vrai bad guy, Bolsonaro. Il a la gueule de l'emploi, il est parfait, il est facho, macho, tout ce qui, il est parfait. Lui, c'est un vrai bad guy, quoi. Alors, il s'est dit, voilà, celui-là, je vais l'attaquer. Il se voyait en Greta du G7. Et vas-y, qu'il l'accuse de menteur, qu'il lui conteste la souveraineté de sa forêt, et que, comme ça, il signera pas ce traité du Mercosur. C'est comme ça. Ouh, Bolsonaro, qu'est-ce qu'il a eu peur? C'est vu tout de suite, hein. Alors, notre prince, évidemment, se doutait qu'il y aurait des effets collatéraux, mais il n'a pas bien vu où ça irait. Voilà, apparemment, il a été surpris. Voilà, parce que traiter cet ex-capitaine d'infanterie exclu de l'armée brésilienne pour acte grave d'indiscipline quand on connaît l'armée brésilienne, c'est sûr que traiter ce type de menteur est très naïf ou suicidaire. C'est aussi hasardeux que de tirer une balle de parabellum dans une pièce blindée dans laquelle vous êtes enfermé. Bah, tôt ou tard, la balle vous traverse le crâne. Voilà, c'est à peu près ce qui lui est arrivé. Un effet collatéral prévisible, mais difficile à préciser à la seconde près. Et donc, notre nouveau converti à la cause écologique, c'est One More Time, fait rouler dans la farine, lâché par Trump plus tard sur l'aide financière contre les incendies, et finalement n'a obtenu que l'effacement, on en parlait tout à l'heure, d'un tweet moquant sa princesse. C'est pas grand-chose. Bref. Donc, entre la prière incantatoire.
Mais quand on se rendra compte du temps qui nous reste en fin de compte.
Et La menace qui fait plouf, je pense qu'il eût été moins hasardeux de faire quelque chose dont l'effet collatéral soit très prévisible et totalement quantifiable. Juge, oui, de bonheur à voir notre David se dresser contre Goliath et décider de renoncer à manger de la viande d'animaux dont on sait qu'ils sont nourris au soja OGMisé produit au Brésil dans la forêt justement amazonienne déboisée et dont on sait que la France en importe quelques tonnes. Bref, quelle classe aurait été de dire désormais, et attention parce que ça va faire très mal, je renonce au cordon bleu.
Hippolyte Girardot, merci Hippolyte. Une chronique à réécouter en podcast, à revoir aussi bien sûr sur franceinter.fr, sur notre page Facebook également. On est ensemble jusqu'à 18h, allez yo.
I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right.
Roy Head, Once Upon a Time in Hollywood, Treat Her Right. Et
oh yeah.
J'espère que vous avez aimé mon accent parce qu'après Guillaume Meurice, il y aura un sujet sur les langues étrangères.
Là, 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 là. Non,
et je pense
teasing.
Que François l'anglais. Évidemment,
mais
tout
oui,
indiqué.
Mais si, oh. Il y a un jeu de mots, évidemment.
Rapport au fait qu'il s'appelle je l'anglais.
Qu'est-ce qu'on arrive
ce matin, dans le bureau, le premier à l'avoir fait, c'est Alex Vizorek.
Oh, ça nous est donné.
Il faut lui rendre hommage.
Je me suis dit, on ne lui a jamais fait.
Jamais. ça doit faire 57 ans qu'on ne me l'a jamais fait.
Non, non, c'est la manière de l'amener. Parce que vous ne l'avez pas vu venir.
Hein,
c'est
vous
qui
vous
a. Non, mais il y a du talent, il y a du travail.
François l'anglais est en notre compagnie. Il publie Tout va basculer, 1919, 29, 69, 2009, 2019. Chez Albin Michel, car les années en neuf sont des années de crise. Et oui, mais
oui,
restons positifs.
Je sais pas. Moi, je suis positif, je vais vous dire, parce que je suis allé ce matin aux universités d'été du MEDEF. Ah. Ça m'avait manqué. Moi, je suis comme vous, François Langlais, je suis un dingue du MEDEF. J'ai un poster de Route Bézieux dans ma chambre. J'ai un album Panini avec toutes les cotes de Stock Option. Je suis pareil que vous. Alors, les universités d'été du MEDEF, bah, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme une ZAD. Mais en gros, vous remplacez le boulgour par le caviar et la camaraderie par la consanguinité. Voilà, c'est plutôt un truc sympa. Et cette année, le MEDEF avait choisi une thématique intéressante. Je cite « Quel capitalisme pour demain ?» Ça, c'est foutrement intéressant, parce que le MEDEF qui s'interroge sur le capitalisme, ça me plaît. Ça, c'est l'équivalent du vomi qui s'interroge sur la gastro. Alors, François, je vous vois venir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, surtout, n'hésitez pas à ne pas intervenir. C'est important, c'est pas marqué Arlette Chabot.
Vous voyez que je suis sage.
Voilà, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Alors, MEDEF et capitalisme, on y va. Y a-t-il un début de remise en question? On commence avec une personne qui bosse au ministère de l'économie.
Je fais une réponse MEDEF ou une réponse ministère?
C'est quoi la différence?
Est-ce que je fais une réponse politiquement correcte ou pas?
Faites la réponse que vous voulez.
Le capitalisme de demain n'existe pas.
Ah, merde. Ah bah on annule alors.
Bah parce que
ça sera une autre forme d'organisation économique et sociale.
Ben, on ne sait pas.
Ben, on ne sait pas.
Voilà, on n'en sait foutre rien. Donc ça, c'est une réponse du ministère de l'économie et du MEDEF, hein, qui sont en fait la même entité avec deux noms différents. Donc ce sont des gens qui maîtrisent les choses, hein, il faut le savoir. Ils savent où ils vont. Ils ont une vision qui est à mi-chemin entre Ray Charles et Gilbert Montagnier, en gros. Continuons cette fois-ci avec des chefs d'entreprise.
Le capitalisme de demain, c'est franchement, c'est une question qui est très, très difficile que vous...
Alors, c'est pas moi qui la pose, hein, c'est le MEDEF. Hein.
Ah ouais. Nous, on voit plutôt à vue aujourd'hui en...
Vous avez une vision du capitalisme de cet après-midi, par exemple.
On ne se pose pas trop ces types de questions sur le capitalisme ou pas. Franchement, on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps.
Il est honnête.
Puis en plus, le temps, c'est de l'argent. Le capitalisme, il n'aime pas trop en perdre. Donc, pas de vision du capitalisme de demain, ni de cet après-midi, ni même de dans 5 minutes. On n'a pas le temps. On doit foncer le plus vite possible, je vous rappelle, dans l'impasse. Mais peut-être que ce monsieur avait une vision du capitalisme du passé. Ça, c'est intéressant. Et de ce que le capitalisme a produit comme inégalité.
En Europe, on est quand même sur un capitalisme social. C'est-à-dire qu'en gros, on prend soin de... Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont mal habitués, mais on n'est quand même pas si mal que ça en Europe.
Mais alors comment on peut expliquer à un sans-abri qu'il est dans un pays où le capitalisme est social ?
Parce qu'on ne peut pas...
C'est pas simple.
Hein. Non, c'est pas simple.
Ah, j'ai l'impression que c'est pas simple. Non, parce que c'est que le SDF, il connaît rien en économie. On a voulu expliquer, il pige rien. D'ailleurs, on voit, ils sont toujours à demander du pognon dans la rue. C'est des gens qui ne savent pas gérer leurs sous. Hein. Il faut le rappeler, les SDF. Alors, c'est un peu facile de gueuler contre le capitalisme, hein, n'est-ce pas, monsieur ?
Vous savez, le capitalisme, on en fait ce qu'on en veut, en définitive. Hein, ou vous faites un capitalisme dur ou un...
Il y a un capitalisme doux.
Oui, il peut y avoir un capitalisme doux. Oui.
Ça serait quoi un capitalisme doux ?
Le capitalisme doux, c'est-à-dire que c'est participer de façon à avoir une cohésion globale.
Oui, voilà, c'est participer de manière à avoir une cohésion globale. Oui, c'est intégrer les acteurs dans des partenariats en développement autour d'un projet, soit en B2B, soit en B2C. Hein, y a que François qui pige ce que je dis autour de la table, mais on s'en fout avec François, on kiffe. Hein, on est là, comme dirait le poète, on transpire de la moustache, et pas à cause du réchauffement climatique. D'ailleurs, face au réchauffement, je vous rappelle, une seule solution, le capitalisme.
Bah, écoutez, le capitalisme, c'est le capitalisme qui va pouvoir sortir, je pense, avec les différents partenaires de cette situation et de l'améliorer.
Est-ce que c'est pas le capitalisme qui nous a mis dans cette situation ?
On peut toujours critiquer, monsieur. La critique est facile, l'art est difficile.
Je suis d'accord. L'art est difficile et c'est vrai que je suis désolé, mais ce que le capitalisme a réussi à faire, c'est-à-dire un truc moche et qui ruine les collectivités, qui, à part Jeff Koons, peut en faire autant ? Donc, je suis d'accord avec le monsieur et on continue d'ailleurs avec lui pour sauver la planète grâce au capitalisme.
Ce que je veux dire, il faut essayer de trouver le bon dosage.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas produire moins ?
Produire moins, mais c'est une société à ce moment-là qu'il faut revoir.
Et est-ce que le capitalisme, ce n'est pas justement toujours plus de production ?
Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Que je veux être contre le capitalisme ? Je ne suis pas contre le capitalisme.
Bah, attention, moi je ne veux rien faire dire du tout. Non, ce n'est pas mon genre. Attention, hein, moi ce que j'aime, c'est avant tout porter le micro dans la plaie, hein, à la manière d'un Pascal Praud, on va dire. D'ailleurs, en parlant d'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen a été invitée aux universités d'été du MEDEF, puis des invités suite à la polémique. Qu'en pense ce monsieur ?
C'est dommage d'avoir fait une restriction en ne lui permettant pas de venir.
Mais est-ce que le capitalisme est soluble dans l'extrême droite et inversement ?
Le capitalisme, il faut qu'il soit soluble dans toutes les tendances politiques.
Il s'adapte.
Oui, mais ça a été sa particularité depuis plusieurs décennies.
On l'a bien vu tout ça. On a bien remarqué que le patronat s'est toujours très très bien adapté dans l'histoire. Hein, quand il a fallu faire LV1 allemand en France, parler franco en Espagne, ou même aujourd'hui avec la politique du bras tendu de Salvini, il n'y a jamais eu de problème. Sur ce thème, je vous conseille de lire les livres du regretté économiste Bernard Maris. C'est une littérature qu'on peut qualifier de capitale.
Merci Guillaume Meurice. Vous étiez au MEDEF à l'université ?
J'y suis pas allé.
Ah, c'est pas possible.
Non, j'y suis pas allé.
C'est
mais
pas indispensable, on va dire.
Alors la référence à Bernard Maris me réjouit. Oui. Parce que je pense que l'un des meilleurs livres d'économie que j'ai lu, c'est « Capitalisme et pulsion de mort », où il parle des liens entre Keynes et Freud. Et Freud, c'est vraiment passionnant. C'est un livre très profond et vraiment très éclairant, justement, sur les mécaniques fondamentales de l'économie, qui sont bien plus proches, comme on le disait tout à l'heure, de la psychologie, de la sociologie,
affects,
que des mathématiques ou des sciences, la physique, des sciences réputées dures, quoi.
François Langlais est avec nous. On va aborder cet autre thème avant d'écouter la chronique littéraire de Clara Dupont-Monod. Les élèves français sont mauvais en langues étrangères. Ils gisent encore au fond du classement européen de ceux qui maîtrisent mal l'anglais notamment. La défiance envers les langues régionales, envers le plurilinguisme, c'est encore cet héritage qui expliquerait cette difficulté, pourtant pas insurmontable. Car après tout, l'essentiel dans notre société, c'est pas de réciter Shakespeare, c'est de se faire comprendre.
Ah, Mina. Oh, I have a lot to tell you, Mina.
Yes, madam.
Ça va, it was not too lourd?
It's all right, madam.
Bon, Mina, you don't need to sortir. On va put le maximum in the congélo, parce que tonight, only two we are. Léa do Noël avec son boyfriend. I'm very triste, Mina. She's terrible, you know, parfois. Non, mais she was vexed parce que I tell her she was doing the music trop fort. Mais Mina, all the quartier was in the street. Enfin bref, voilà, ce soir, on est tout couvert.
Brillantissime, c'est le film de et avec Michel Larocque. La une de Télérama qui est parue ce matin, Why My Kids Are Nul. Donc c'est un problème récurrent, alors c'est pas
insurmontable. C'est pas nouveau, hein, parce que ouais, je me souviens qu'on disait déjà ça quand j'étais petit. Ça date pas d'hier. Ouais. J'ai pas l'impression que ça ait changé beaucoup.
Mais non, on cherche la solution. Mais ouais. Alors, Télérama développe l'idée que le chasser les régionalismes, pas valoriser les langues régionales, se méfier du plurilinguisme, du multilinguisme. La France, le français était aussi la langue diplomatique par excellence. Puis elle a perdu un peu de. Ils expliquent ça par ce comme ça qu'il y aurait du retard en France par rapport à la Belgique où il y a déjà trois langues, donc c'est déjà plus facile. Vous maîtrisez combien de langues, vous, François Langlais?
Oh, ma première langue, c'était l'allemand. C'est vraiment une langue que j'aimais beaucoup, que je ne pratique pas, mais que j'ai vraiment adoré lire et apprendre. L'anglais, je l'ai fait par nécessité, mais je n'ai pas d'appétit particulier pour cette langue-là.
Nécessité et pourquoi?
Parce que l'interaction, justement, avec les gens que vous interviewez, les voyages, c'est l'anglais.
L'anglais, c'est souvent par nécessité.
C'est indispensable.
Par intérêt économique.
C'est en tout cas, si vous êtes journaliste et que vous voulez sortir des frontières, c'est vraiment indispensable. Et puis, j'ai appris le chinois. C'était ma troisième langue. J'ai appris en 76, donc quand j'étais en seconde. J'ai pris mon premier cours de chinois le jour de la mort de Mao Tse-tung, vous voyez. Donc,
pour fêter ça.
Je pense pas qu'il y ait le lien entre les deux. Et bon, j'ai appris laborieusement. Et puis, évidemment, j'ai réactivé les quelques bribes quand j'étais en Chine. Et j'en ai appris suffisamment pour pouvoir me débrouiller, mais sans jamais vraiment l'écrire et le lire, parce que ça, c'est très difficile.
Ça fait de vous un Français presque singulier de maîtriser plusieurs langues, non?
Oh, je ne suis pas sûr, parce que mon niveau n'est pas tel que, justement, il inspire l'admiration.
Mais à ceux qui s'affolent que le français soit beaucoup moins rayonnant dans le monde, que ce soit l'anglais qui prenne la main, ça vous inquiète ou en fait pas spécialement?
Oh, écoutez, je suis pas sûr que le rayonnement d'un pays s'évalue seulement sur ce critère, quoi. La culture, c'est beaucoup plus large. Il y a la langue dedans, bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi évidemment le passé au sens propre, le rayonnement, la qualité du débat intellectuel, la vitalité démocratique. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et si on prend l'ensemble des critères, il me semble que la France joue quand même un rôle tout à fait important. Mais c'est probablement pour ça aussi qu'on fait peu d'attention aux langues étrangères. C'est parce que finalement, dès qu'on est petit, on nous met dans la tête l'idée qu'en France, on est au centre du monde, avec le bon côté que ça peut avoir, mais aussi les travers.
Et la peur du déclassement des Français avec la langue qui est de moins en moins influente, vue de Chine, j'imagine que, ou pour quelqu'un qui a vécu en Chine, ça fait un peu marrer.
Oui, alors à l'époque où j'y étais, en fait, la France était vraiment très considérée par les Chinois, parce que il subsistait le souvenir de Gaulle, qui avait été l'un des premiers à reconnaître la République communiste. Hein. Et du coup, les Chinois en gardaient une certaine gratitude vis-à-vis de la France et des Français. Et moi, j'enseignais en fait dans une université qui avait été fondée en 1901 par les jésuites français, et dans laquelle s'était maintenue une tradition de francophonie, de francophilie, qui avait été interrompue pendant la Révolution culturelle, puis qu'on a rétablie en envoyant un petit gars, un coopérant, c'était moi, au début des années 80. Donc j'ai bénéficié de ce climat favorable pour la France.
Alex ?
Je voulais juste préciser que vous parliez des Belges et qu'on était mieux classés. C'est dû aux Flamands. Le Belge francophone ne parle pas très bien les langues étrangères.
Sans doute, comme pour les mêmes raisons.
Ouais. Oui, alors parce que effectivement, il a la certitude qu'il parle la plus belle langue du monde, comme le français. Et là où le néerlandophone se dit obligé de parler l'allemand ou l'anglais pour être compris à l'international.
Effectivement. Une réaction autour de cette table ou...
Non, mais sur la langue, je pense que ce que disait monsieur était juste, c'est-à-dire que le petit français est élevé dans l'idée que la France est le centre du monde, d'une certaine façon, le français voyage très peu. Émigre très peu. Il y a toujours dans,
c'est vrai,
dans tous les pays du monde, tu as une communauté italienne, scandinave, allemande, espagnole, etc. Tu as très peu de communautés françaises dans le reste du monde. Quand
en,
même.
Belgique.
En Belgique. Le mec qui voyage beaucoup. Oui, en Belgique, c'est vrai. Excuse-moi. Mais par exemple, les seuls. Enfin, il y avait une communauté, par exemple, bretonne à New York au début du XXe siècle, mais c'était à peu près la seule qui existait aux États-Unis et ça n'a pas continué.
François Langlais, l'homme de lettres aussi que nous accueillons et qui sera donc sensible à la chronique de Clara Dupont-Mono.
Eh bien oui, et surtout d'abord parce que c'est vous notre actualité, François Langlais. Il ne s'est rien passé dans le monde, hein. Il y a juste François Langlais qui vient à part Jupiter. Et ça, il faut le dire. Alors, certains diront, quand on a su que c'était vous l'invité, moi j'ai entendu, ah bah Langlais c'est un libéral repenti. Bon.
Repenti. Ah, bah, comme libéral, un criminel, comme un mafieux.
Libéral, repenti.
Totalement. Voilà.
Vous témoignez quand même que j'arrive sans masque.
C'est vrai. D'autres ont pu dire, ah non, mais Langlais, c'est plutôt un gauchiste refoulé. Bon, ah. Voilà. Vous appartenez aussi à ça. Ah,
ben, c'est cousin.
C'est cousin. Moi, je me permets de dire que François Langlais, c'est peut-être aussi l'incarnation d'une notion que les réseaux sociaux ont piétiné depuis longtemps et qui s'appelle la nuance. Voilà, 50 nuances de Langlais, ça pourrait être votre surnom.
Vous allez pécho, François.
Non. Là, vous me faites plaisir.
Mais vous allez voir, parce que vous êtes libéral, mais critique envers la mondialisation. Vous n'êtes pas hostile au profit, à condition qu'il n'aggrave pas les inégalités.
Moi, j'appelle ça fourbe.
Non, ça s'appelle être nuancé. Vous voyez toute la différence.
Ah oui, ok, je vois.
Vous êtes pour un protectionnisme modéré. En fait, François Langlais, pour le dire vite, vous êtes un objet littéraire. Pourquoi ? Mais parce que la littérature, elle adore la nuance. La littérature ne travaille que sur cette zone grise et magnifique qui sépare le meurice du reste du monde, qui sépare le pour du contre, le blanc du noir, le visorec de la plénitude sexuelle, tous les antagonismes.
Si on en met à la chronique peut-être.
J'arrive. Parce que justement, j'ai là un roman qui est fait pour vous, qui n'est que nuance et qui en parle tellement bien. Il s'appelle La Grande Escapade et il est signé de Jean-Philippe Blondel. Jean-Philippe Blondel, c'est l'homme de la nuance, c'est un peu le versant littéraire du Langlais. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps et qui mériterait tous les sunlights de la rentrée littéraire. Avis aux confrères. Nous sommes en 1975 dans une petite école de province. Donc unité de temps, unité de lieu, un peu comme dans une émission de France Inter. Sauf que l'écriture de Blondel se balade de cœur en cœur. Elle va glisser dans la tête de tous les instituteurs et institutrices. Et qu'est-ce qu'elle transcrit, cette écriture ? Elle transcrit une énorme trouille. Elle transcrit que chacun est pétrifié par le vent du changement, pour paraphraser Bob Dylan. D'abord, changement d'époque, 1975, mais 68 est passé par là. Par exemple, les écoles, les classes vont devenir mixtes. Oh, angoisse du directeur qui redoute le mélange. Les filles sont si fragiles et les garçons sont si brutaux. Et puis, voici qu'arrivent des nouveaux instituts absolument effrayants, qui mettent des posters sur les murs de la classe, qui veulent que les élèves débattent et qui ont un terrible mot à la bouche, autonomie, oh, qui fait peur à tous les anciens dans la salle des profs. Et puis, sans parler de la radio, quand on l'allume, on entend une espèce de rythme binaire très saccadant. Même les petits de l'école maternelle connaissent ce morceau. Je cite « Bonnet M, pourquoi pas Bonnet C tant qu'on y est ?» Voilà la réaction des anciens. Ce que raconte Blondel par petite touche impressionniste, en fait, c'est une espèce d'îlot d'adulte qui est posé sur l'océan des traditions et qui entend approcher l'orage de la modernité. C'est pompeux, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il pourrait se tenir chaud, il pourrait s'encourager, mais non. Parce que là intervient le deuxième changement, qui n'est pas sociétal, mais qui est intime, puisque chacun sent que l'orage, c'est d'abord au fond de soi qu'il gronde, et pas tellement vers l'horizon. Jeannick Laurin, par exemple, elle voudrait bien dessiner des vêtements et puis arrêter d'être instite et femme d'eux. Geneviève Coudrier, elle voudrait bien goûter le coca. Oh ! Et plus la verveine, enfin goûter du coca, la boisson des jeunes. Et puis il y en a un qui s'appelle Charles Florimont, qui voudrait bien serrer de très près sa si jolie collègue qui est mariée. Et puis il y en a une autre qui voudrait bien caresser le dos du directeur alors qu'elle est si convenable. Et en fait, tout va basculer. Sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'au niveau de l'époque, ça mute, et au niveau des adultes, eh ben, ils muent un peu comme des adolescents. Et là où Blondel est vraiment très très fort, moi ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il vous raconte ces bouleversements comme si c'était des caresses. Il n'y a pas de fracas, il n'y a pas de coup d'éclat. On est à des années-lumière d'Anna Karénine, par exemple, qui envoie tout valdinguer. Les héroïnes de Blondel, c'est pas du tout Anna Karénine. Elles ont un cardigan. boutonnée jusqu'en haut, et elle frémisse à la seule idée de prendre un train pour Paris, là où Anna Karenine se jette dessous, quand même. Vous voyez la différence.
On ne le conseille pas. Tout
est nuancé, fin, presque heureux, et rien qu'au titre, il a mis la grande escapade, il n'a pas mis la grande fracture, parce qu'en fait, c'est ça. Et ça change.
Mais ce qu'il veut comme titre, c'est déjà.
Et ça change tout. Et en fait, cet exercice de dentelle littéraire dit une seule chose, elle dit que parfois, les ruptures sont aussi douces que les histoires qu'elles clôturent. Voilà, à méditer même, à mon avis, en économie. Je vous redonne les références. La grande escapade de Jean-Philippe Blondel est parue chez Buchet-Chastel et la mise à nu du même auteur vient de paraître en poche en folio.
Très bien, merci Clara Dupont-Mono.
Est-ce que vous en dites et t'entends ?
Ah bah c'est... Je suis payée pour ça en même
temps. Ça marche.
Elle est payée par l'auteur pour ça.
Voilà mis en exergue l'un des nombreux livres de la rentrée, c'est le choix de Clara Dupont-Mono.
Dans l'océan des nouveautés, vous savez que là il y en a un, c'est Valeurs Sûres, estampillé par Jupiter.
Merci Clara.
Il n'a pas écrit des trucs antisémites quand il était jeune, enfin il n'y a pas un truc comme ça, on est bon là, c'est safe. Non.
Et okay. Les femmes de 50 ans, il aime bien.
Parfait.
François Langlais, nous avons choisi avec vous de conserver notre tradition de fin d'émission, le petit sketch, notamment pour une raison assez précise.
Eh bien, on nous a soufflé que vous étiez au scout avec quelqu'un de la maison.
C'est vrai. Je le confirme. Je pourrais même vous montrer une photo, d'ailleurs.
Comment s'appelle le
on. C'est Dominique Seux qui était au scout avec vous.
En fait, on est originaire de la même petite ville
c'est
de banlieue.
C'est drôle, ça.
Dominique Seux nous a donc dit, j'ai fait les scouts avec François Langlais, vous lui remettrez mon bonjour, je l'aime beaucoup, c'est beaucoup amusé.
Nous, on s'est dit, on va voir comment ça s'était passé.
Et votre totem, c'était quoi?
Ah, je me souviens plus. On était quand on était. À l'époque, on était beaucoup plus naïfs que ça.
C'est pas serpent vorace.
Mais en fait, c'était une époque où on n'avait pas vraiment des totems. Mais quand on était louveteau, on avait effectivement une couleur, quoi. Et pour autant que je me souvienne, moi, j'étais noir. Mais Dominique, je ne me souviens plus.
Je poserai la question aux chers auditeurs, vous aurez la réponse bientôt. Alors justement, ça vous a inspiré,
alors,
Alex.
Alors, vous êtes François Langlais jeune, je suis Dominique ce jeune, Charline est la monitrice, et Guillaume, un scout légèrement plus à gauche que nous.
Bon, les louveteaux, vous êtes prêts pour la journée camping sauvage demain ?
Non, moi j'y vais pas, je fais grève. Je veux faire la révolution et changer complètement le système des scouts de France.
Ça, c'est pas Dominique ce...
Mais il est très bien, le système tel qu'il est.
Et si on explique bien aux gens le système, ils vont comprendre qu'il est bon.
Ouais, bien sûr, parce qu'ils privilégient les nantis, comme vous.
Alors calmez-vous, parce qu'il n'y a pas de négociation possible, tout le monde viendra camper, voilà.
Très bien madame, il faut rester ferme face aux prises d'otages des syndicalistes.
Bon, la journée camping se déroulera au pic de la Tour du Pin.
Et on y va comment ?
Bah, en marchant.
Oh oui, en marche,
non,
en marche.
Non, moi je marcherai pas plus de 7 heures par jour.
Mais moi je suis prêt à marcher plus pour avancer plus.
Oui, bah ça on verra, oui.
Eh ben ça, je crois que c'est une erreur, madame. L'indécision, c'est l'ennemi de l'économie.
Oui, surtout que la convention collective des scouts de France ne le permet pas.
Convention que je souhaiterais réformer, pour alléger le code du travail des scouts de France.
Oh, calmez-vous, je pense qu'on peut trouver un compromis. Par exemple, les heures sup seront récompensées par un second dessert au campement.
Ah, excellente idée, camarade Langlais.
Qui va payer le second dessert ?
Les scouts.
Et voilà, encore des subventions. François vire à gauche. Fais gaffe, si tu continues, tu vas finir sur France Inter.
Bon, écoutez, ça suffit. Alors, on va préparer les sacs et surtout, n'oubliez pas votre crème solaire, hein, parce que ça tape sur le sommet. Hein.
C'est surtout pour toi, François, ça.
Oh, ça, c'est malin.
Ah, moi, j'en ai pas de crème. François, tu pourras m'en donner un peu ?
Ah non, c'est la mienne. En revanche, je peux t'en vendre si tu veux.
Moi, je peux t'en vendre à 20% moins cher.
Oh, c'est pas juste, c'est mon client.
C'est la loi du marché, mon petit gars.
Pff, quel capitaliste. Fais gaffe, Dominique. Si tu continues comme ça, tu finiras aux échos.
Bon, allez. À table, ce soir pour dîner, on a des saucisses.
Mais on a 5 saucisses et on est 4.
Ah bah ça fait une chacun, on coupe la dernière en 4, c'est un système égalitaire.
Oh bah non, selon la théorie de Smith, les saucisses doivent être proportionnelles aux apports dans la société. Donc je pense que je mérite d'en avoir une et demie.
Ou alors, on peut échanger avec les scouts de Boulogne 5 saucisses contre 2 quiches, comme ça on pourrait avoir une demi-quiche chacun.
Ah non, on ferme nos frontières douanières avec les autres scouts.
Mais quel centriste, fais gaffe François, si tu continues comme ça, tu vas finir sur le service public.
Eh ben pourquoi pas.
Pire que ça, dans une émission avec Charline Bonnemaker.
Ah non, ça jamais.
Ah François, il était comment Dominique ce petit louveteau?
Ah, il était comme aujourd'hui, c'est-à-dire...
N'en dites pas plus, c'est bon.
Tel qu'on l'aime bien.
Merci beaucoup François Langlais d'avoir passé cette heure avec
nous. C'était un plaisir.
Pour nous aussi, c'est réciproque, on rappelle le titre de votre livre, « Tout va basculer ». 1919, 29, 69, 2009, 2019, toutes les années en neuf sont des tensions, des crises, la montée du populisme, la crise en Europe. Albin Michel, c'est votre éditeur. Merci beaucoup François Langlais. Merci les amis, merci Clara Dupont-Mono, Hippolyte Girardot, les garçons. On se dit à demain où nous avons prévu de recevoir le chanteur et écrivain Abdelmalik.
Un mec légendaire quoi. Les gens de sa partie l'appellent le d'orbe et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blase. Une épée, quoi.